est allé chercher le pain ce matin ? J'y suis allée aussi. Bonjour madame, je voudrais 2 baguettes et 5 croissants, s'il vous plaît. La vendeuse prépare la commande, bruit sec de papier, tapotement à la caisse, cela vous fera 7,75 €. Je fouille dans mon porte-monnaie, je sors un billet de 5, une pièce de 2 et une pièce de 1, rendu, une pièce de 20 centimes et une pièce de 5. Le compte est bon. Je repars avec une marchandise contre une somme donnée que j'ai pu honorer parce que je reçois un salaire contre un travail fourni. Notre vie matérielle est régie par le code du donnant-donnant. Et notre vie sociale et nos rapports humains le sont aussi, souvent. Ce n'est peut-être pas très poétique, mais c'est quand même notre réalité. Cela va du grand classique dans l'éducation, « Quand tu auras rangé ta chambre, tu pourras aller jouer », au plus contraignant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même venir me voir. Le donnant-donnant régit notre cadre de vie. Ce n'est ni bien ni mal. Cela nous aide à trouver un équilibre dans nos vies, fixé pour que le plus possible les parts soient bien réparties. Nous appelons cela la justice. La Bible, reflet de notre humanité, raconte de nombreuses histoires de marchandage. Comme dans le passage du jour, dans Genèse 14, les versets 17 à 24, que nous écoutons maintenant. Abraham revient après sa victoire sur Kedar Lomer et sur les rois ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisédek est roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant « Le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Abraham lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, prends les biens et garde-les. » Abraham lui répond, « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas un fil, même pas une lanière de sandale. Alors tu ne pourras pas me dire, c'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abraham. Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangée et la part de mes alliés. Eux, ils prendront leur part. » Tout fonctionne dans l'échange. Vous avez entendu, en échange d'une bénédiction, le prêtre reçoit la dîme, le 10e du butin. Le roi de Sodome ensuite propose un marché qui paraît trop généreux à Abraham, qui laisse alors tout le butin au roi de Sodome et prend seulement sa part. Car nous savons tous que le donnant-donnant peut aussi rapidement tomber dans sa face sombre, œil pour œil, dent pour dent. Et Abraham veut éviter cela. Il veut rester le plus juste possible, quitte à être lésé. Puis à la suite de cette négociation de chef de guerre va surgir une bénédiction. La surabondance de la grâce. Écoutons les quelques versets qui suivent au chapitre 15. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Seigneur mon Dieu, que vas-tu me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne naîtra de moi. » C'est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Alors le Seigneur lui répond, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce sera un fils né de toi. Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Au cœur de la relation humaine, fragile, du donnant-donnant, survient l'irruption de la grâce, de la surabondance de l'amour de Dieu. Avec dans ce texte une bénédiction pour la descendance d'Abraham, dont d'ailleurs nous faisons tous partie aujourd'hui, les croyants des religions du livre, comme nous appelons les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est la pointe de notre relation avec Dieu. Un quotidien qui est plongé dans des règles d'équilibre fragiles et avec la confiance, une irruption de la grâce possible, une surabondance, et souvent au moment même où nous nous y attendons le moins. D'un côté la justice et l'agapé de l'autre. C'est ce que nous rappelait Olivier Abel, professeur de théologie qui est intervenu à notre pastorale en début de semaine. Nos vies de croyants sont des allers-retours incessants entre la justice humaine, logique d'équilibre pour que chacun ait sa part, et l'agapé, qui est l'amour de Dieu donné et offert, sans condition et qui sort de toute logique. Justice et agapé. Et en effet, certains événements de nos vies mettent à mal toute justice. Notre amie est malade, elle si vivante et pleine de foi. Et que dire de celui qui, encore jeune, est frappé à son tour? Ce n'est vraiment pas juste. Non, la maladie, la souffrance, la mort sont profondément injustes et n'ont aucune explication. Dans cet absurde, l'agapé se tient, fragile et en même temps d'une puissance extraordinaire. C'est bien le sens du verset partagé avec les enfants tout à l'heure. Être grand aux yeux de Dieu demande une grande humilité et un amour reçu et partagé. Et cet amour de Dieu en Jésus-Christ est tout aussi absurde. Il n'a pas d'explication rationnelle. Mais il l'aime, malgré et contre tout, et sans condition. Dans l'absurde du mal, comme dans l'absurde de la grâce, le raisonnement humain est vain. La Bible nous invite à choisir la confiance en Dieu, en ce Dieu de Jésus-Christ qui aime gratuitement et nous offre l'amour infini, au-delà de ce que nous saisissons ici et maintenant. Cet agapé dépasse d'un fol élan toute justice, comme toute injustice. Au-delà de ce que nous pensons et comprenons, nous sommes appelés à garder confiance en cet amour incroyable qui peut tout, qui croit tout, qui espère tout, comme l'écrit l'apôtre Paul. Et le passage de Luc que Catherine a lu, appelé « La multiplication des pains », illustre encore cette bonne nouvelle. Dans la panique de ce jour-là sur la colline, avec le désarroi des disciples qui agissent pour la justice en calculant, en achetant, pour essayer de satisfaire 5000 hommes, et donc on peut en déduire tout autant de femmes et d'enfants, Jésus, lui, l'agapé, accueille et ordonne pour que le miracle opère. Faites-les asseoir par groupe de 50. Se laisser mettre en ordre. Et si c'était cela le préalable nécessaire pour recevoir la grâce? Laisser notre Dieu organiser notre chaos intérieur, simplement pour que son agapé puisse nous rejoindre. Vous savez, c'est un peu ce que nous vivons lors des cultes. Car recevoir la grâce lors d'un culte demande un peu d'ordre et de préparation. Vous êtes arrivés pour 10 heures, enfin, presque tous. Vous vous êtes entrés et vous ne vous êtes pas assis n'importe comment. Et puis si nous sommes là ce matin, c'est qu'avant, il y a une préparation, de l'organisation, des conseils de paroisse et des comptes à tenir. Cette organisation paraît souvent fastidieuse dans le quotidien déjà surchargé de nos vies. Mais pourtant, c'est déjà la grâce qui s'annonce. L'abondance de poissons et de pain. Une multitude comme la descendance d'Abraham. Et il y en a même tellement que 12 paniers restent. Et c'est alors que la vie peut devenir une fête. Malgré et contre toute apparence. Car à l'image des jours d'été gorgés de soleil, la lumière de Dieu devient éternelle pour chacun de nous. C'est là que nous plaçons notre vie fragile et dans la confiance puissante à la fois. Ô Jésus, mon frère, dans mon quotidien d'inquiétude, de peur, de soucis pour ce que j'aime, dans mes désirs de justice et dans mes colères d'injustice, ordonne. Ordonne mon être, mon existence, mon esprit, pour que ton amour m'habite. Guéris mon chaos. Aide-moi à trancher entre ce qui fait vivre et ce qui m'écrase. Alors je goûterai pleinement ton royaume et je pourrai le partager. Alors nous recevrons en vérité et nous vivrons, par ta grâce, pour l'éternité. Amen.